Radio Prague, les informations. Bonjour, avec 8,1%, le taux de chômage en juin a été le plus faible depuis le début de l'année. Les députés ont approuvé la hausse de la taxe sur la consommation des produits du tabac. Et puis enfin, la mortalité sur les routes tchèques reste une des plus élevées en Europe. Comme annoncé en titre, le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 8,1% en juin. Il s'agit d'une baisse de 1 dixième de point par rapport au mois de mai et du taux le plus faible enregistré depuis le début de l'année. Cette évolution s'explique notamment par les emplois saisonniers. Selon Eurostat, qui utilise une méthode de calcul différente et parvient à un chiffre de 6,6%, il s'agit également du sixième taux le moins élevé en Europe. Le ministère, comme les analystes du marché du travail, ils ne s'attendent toutefois pas à d'autres améliorations dans les mois à venir. 474 000 personnes étaient donc sans emploi à la fin du premier semestre. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Comme de tradition, Prague affiche le taux le plus faible avec 4,1%, tandis que les régions industrielles de Bohême et de Moravie du Nord sont les plus frappées avec notamment 15,4% dans la région de Most. La Chambre des députés a soutenu ce mercredi en première lecture le projet gouvernemental relatif à l'augmentation de la taxe sur la consommation des cigarettes et autres produits du tabac. Ainsi, d'ici à 2014, le prix moyen d'un paquet de cigarettes en République tchèque devrait augmenter d'environ 4 couronnes, soit 16 centimes d'euros. Le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, a indiqué qu'il s'agissait, je cite, d'un amendement absolument indispensable. Cette augmentation est une réaction à une exigence de l'Union européenne qui souhaite que les assises sur le tabac, c'est-à-dire les taxes perçues sur la consommation, représentent au moins 60% du prix moyen du paquet de 20 cigarettes et 90 euros pour 1000 cigarettes. 310 personnes sont mortes sur les routes en République tchèque au cours des 6 premiers mois de cette année, soit 11 de moins que lors du premier semestre 2011. Il s'agit du troisième total le plus faible depuis 1970, après ceux de 2010 et 2007. Le nombre de blessés graves a lui aussi quelque peu diminué. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par le chef de la police en charge de la sécurité routière, qui a toutefois regretté que la mortalité sur les routes tchèques reste très élevée à l'échelle européenne. Statistique toujours, le volume de récolte des céréales, selon une première estimation de l'Office tchèque des statistiques, devrait être inférieur de 18% à celui record de l'année dernière. Près de 6 millions de tonnes devraient être récoltées, avec notamment plus de 1 million de tonnes de colza. Globalement, le volume de récolte attendu devrait être inférieur de 5,7% à la moyenne des 5 dernières années, en raison notamment des mauvaises conditions météorologiques. Les dépouilles mortelles de 14 moines franciscains martyrs morts au début du XVIIe siècle ont été exhumées ce mardi de leur tombe à l'église Notre-Dame-des-Neiges à Prague. Les os des moines assassinés alors par la population protestante vont désormais être analysés par différents scientifiques avant la béatification des 14 religieux le 13 octobre prochain. Engagé il y a plus de 3 siècles, le processus de béatification des moines ne s'est terminé qu'en mai dernier avec l'approbation du pape Benoît XVI. Certains de leurs reliquaires seront ensuite installés à la cathédrale Saint-Guy au château de Prague. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans les faits événements. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable qui règne sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Borgèques. Les nuages seront toutefois plus nombreux que mercredi et entraîneront des averses à caractère passager. Les températures sont en baisse et varient entre 16 et 22 degrés pour les maximales en Bohême et entre 19 et 24 degrés en Moravie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Pierre Maignan pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. À la une, aujourd'hui, nous irons à la rencontre des moines franciscains de l'église Notre-Dame-des-Neiges. 14 d'entre eux, martyrs au début du XVIIe siècle, sont en passe d'être béatifiés. Leur corps était exhumé aujourd'hui des sépultures où ils reposaient depuis 400 ans. Ariane Batou-Tovan vous proposera ensuite une interview de Thomas Bouton, l'organisateur d'un marché gastronomique français qui se tient à Prague, non loin du Pont Charles, pour la 4e année consécutive. Enfin, dans notre rubrique Histoire, vous pourrez suivre la rediffusion d'un entretien réalisé l'été dernier avec Pavla Dzhazairova, une figure historique de la rédaction française de Radio Prague dans les années 1960 et dont le parcours, très riche entre Afrique et Europe, mérite le détour. Très bonne écoute à tous et à toutes. Les corps de 14 moines franciscains du XVIIe siècle ont aujourd'hui été extraits de leur sépulture à l'église pragoise de la Notre-Dame-des-Neiges. Les hommes d'église seront en effet béatifiés le 13 octobre prochain. Avant cela, ils passeront entre les mains d'une ribambelle de scientifiques, anthropologues, historiens ou théologiens examineront et étudieront leurs dépouilles mortelles. Les 14 moines franciscains de l'église de Notre-Dame-des-Neiges, le plus grand bâtiment de ce type est situé au cœur de Prague, n'avaient pas vu la lumière du jour depuis leur décès en 1611. Ils ont été retirés de leur tombe ce mercredi matin à 9h en vue de leur béatification en octobre prochain. Cette cérémonie distingue les personnes de foi chrétienne ayant eu un comportement exemplaire. Engagé il y a plus de 3 siècles, le processus de béatification des moines franciscains ne s'est terminé qu'en mai dernier avec un décret du pape Benoît XVI approuvant cet acte solennel. Peter Regerath Benesch est également un moine franciscain résidant dans cette église. Il revient sur les raisons qui ont motivé cette décision.
Aucun de ces franciscains n'était un individu exceptionnel, mais je dirais que la signification profonde de cette béatification est liée au fait que c'était une communauté qui, dans une période de grand trouble, a eu le courage de rester au monastère.
Le début du XVIIe siècle est en effet une période de très grande tension entre les communautés religieuses. C'est à cette époque qu'arrivent à Prague quelques moines catholiques de l'ordre franciscain afin de répandre leur foi dans une ville qui compte une importante population protestante. Peter Regerath Benesch apporte des informations supplémentaires sur le contexte de l'époque et nous conte le destin tragique des moines franciscains.
La communauté protestante de la ville avait le sentiment d'être menacée, un sentiment renforcé par l'arrivée importante de nouveaux habitants venus d'ailleurs. Aussi, quand les troupes de Rodolphe II de Habsbourg, alors empereur du Saint-Empire romain germanique, occupent Malastrana et menacent de traverser la Vltava, le désordre et la fureur s'emparent des habitants de la ville qui commencent à piller et à assassiner. Le monastère franciscain de Notre-Dame-des-Neiges a été le plus touché puisque toute la communauté y a été assassinée.
La béatification aura lieu le 13 octobre prochain. Les moines franciscains béatifiés troqueront leur cercueil contre des reliquaires officiels et reposeront pour certains à la cathédrale Saint-Guy et pour d'autres à l'église Notre-Dame-des-Neiges. D'ici là, des experts, anthropologues, historiens et théologiens auront l'occasion d'étudier les dépouilles des moines martyrs. À partir du 24 septembre, 2 journées de conférences permettront aux scientifiques d'exposer les résultats de leurs travaux. Un marché gastronomique français ouvrira ses portes ce jeudi au pied du pont Charles sur la pittoresque place de l'église pragoise de Kampa. 23 stands proposant des produits régionaux français et une programmation musicale variée attendent le public pragois. Des concerts et un bal populaire le vendredi 13 et le samedi 14 juillet animeront la petite place parée pour l'occasion des couleurs du drapeau français. Pour la 3e année consécutive, l'événement est organisé par l'agence Kazakh. Son directeur, Thomas Bouton, présente le programme et les nouveautés du marché au micro d'Ariane Batutovan.
Le marché débute le jeudi 12 juillet dans la matinée. Alors l'ouverture officielle est à 10h, mais on a une ouverture un peu plus officielle avec Monsieur l'ambassadeur de France qui nous fait la gentillesse de bien vouloir venir inaugurer le marché. À partir de là, dès l'inauguration, on a déjà un programme musical qui débute avec de l'accordéon français, des chansons françaises. Et puis par la suite, pendant 4 jours, il y aura de la musique. En général, à partir de midi jusqu'à 22h, les vendredis et samedis. Alors cette année, on essaye de faire un petit peu ce qui se fait en général à Paris, où il y a toujours un bal de pompiers le vendredi soir, voire le samedi soir. Donc on n'a pas réussi à faire quelque chose d'aussi pittoresque, un bal des pompiers, mais on a quand même 2 groupes qui vont se produire jusqu'à 10h le soir, ce qui est sympa, ce qui est une nouveauté cette année. Et puis le marché se termine donc dimanche à 20h, avec encore une fois un programme musical. Sur le marché pendant 4 jours, on a 23 stands qui vont proposer des produits typiquement français de toutes les régions. On va avoir des produits de Bretagne, du Limousin, du Languedoc, du Sud-Ouest, etc.
Quelles sont les nouveautés par rapport aux années précédentes ?
Alors, les nouveautés cette année, on va avoir un stand d'escargot de Bourgogne, ce qui est une nouveauté. Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? On a un stand d'Armagnac, qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est-à-dire que c'est des exploitants qui viennent vraiment directement depuis le sud-ouest nous présenter leurs produits. On a aussi deux bars à champagne, avec notamment, on va dire, une entreprise qui vient tout spécialement depuis la France pour présenter ses champagnes. La buvette va être un petit peu plus, être un peu différente. On va proposer aussi des... il va y avoir des moules cette année. On va aussi avoir un exposant qui va nous faire des saucisses de Toulouse, de l'andouillette. Et on a effectivement aussi une réelle crêperie bretonne qui s'installe sur le marché cette année, qui n'était pas là non plus l'année dernière.
Pourriez-vous nous dire un peu plus ce qu'on peut acheter sur les stands?
Oui, alors on peut vraiment trouver, je pense, en tout cas vraiment beaucoup de diversité. Alors notamment déjà dans un premier temps, sur du vin, on a vraiment des vins de tous les horizons. On a aussi bien Languedoc, Bordeaux, Bourgogne, vin de Loire, etc. On va avoir donc, comme je le disais, deux bars à champagne, donc où il est possible aussi d'acheter du champagne, et je dirais des champagnes qu'on trouve peut-être pas forcément facilement ici. On va trouver un stand de terrine, on va trouver un stand de saucisson, on va trouver aussi un stand de salaison à la découpe, donc c'est-à-dire tout ce qui est copa, ventrèche, mais aussi jambon d'Auvergne, jambon de Bayonne. On va trouver aussi, donc il y a pour cette année aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais pour la première fois, on a vraiment une pâtisserie qui vient proposer justement des gâteaux, voilà, des choses sucrées qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur le marché. Donc on est très content de ça. Après, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y aura des glaces, il y aura des fruits. On a quelqu'un qui s'est engagé à faire venir pêche, nectarine, melon, fraise, cerise depuis la France. C'est vrai que l'année dernière, ça nous manquait un petit peu sur le marché. On a vraiment une belle diversité de choses, on a une diversité d'exposants, on a aussi bien des gens qui viennent de France que des gens installés ici français, que des gens installés ici tchèques, qui ont vraiment, entre guillemets, cette culture de la gastronomie française. Donc je crois qu'on a, sincèrement, cette année, je crois qu'en termes d'offres, on a vraiment une des plus sympathiques qu'on a eues depuis qu'on s'occupe du marché.
Une belle diversité quand même, mais je suis étonnée, vous ne parlez pas de fromage.
Oups, oui, tout à fait, non, c'est un oubli, pardon. Non, bien sûr, du fromage, on a trois stands de fromage, chacun proposant une belle diversité avec des fournisseurs différents. Je les ai oubliés parce qu'ils sont là depuis le début et que finalement j'essaie plus de me concentrer sur ce qui était nouveau. Mais non, un marché français sans fromage, ce n'est pas un marché français, donc on a vraiment une belle offre, il y a trois personnes. Trois stands à proprement parler qui chacun propose des produits relativement différents dans les origines et dans la qualité. Donc non, le fromage est là et bien là, pas de problème.
Une rubrique historique un peu particulière aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la suite d'un entretien réalisé à l'été 2011 avec Pavla Jazaïrova. Nous l'avions rencontré à l'époque pour parler de son expérience à la rédaction française de la radio tchécoslovaque dans les années 1960, à l'occasion des 75 ans de Radio Prague. Mais Pavla Jazaïrova est loin de s'être limitée à cette seule expérience. C'est aussi une vie et une expérience hors du commun. Radio Prague vous emmène aujourd'hui avec elle sur les traces de son enfance, de sa jeunesse sous le communisme, mais aussi sur les routes de l'Afrique et des pays arabes des années 1970 à nos jours. Pavla Jazaïrova est au micro d'Anna Kubishta.
Chapitre de l'histoire.
Pavla Jazaïrova, vous êtes journaliste radio, écrivain, et alors vous avez une vie riche et pleine quand on s'intéresse un petit peu à votre biographie. Vous avez donc travaillé à la rédaction française de Radio Prague pour les émissions pour l'Afrique. Alors il faut préciser, on en parlait tout à l'heure hors micro, que vous êtes né en 1945 à Münster, en France, et que c'est un peu le fruit du hasard, du coup.
Tout à fait, parce que ma mère et mon père étaient en Allemagne, et ils ont eu le temps de traverser le pont du Rhin. Et ensuite, il y a eu le bombardement de ce pont.
Et ils sont restés coincés derrière.
Et Mulhouse, ils n'étaient plus coincés puisqu'ils étaient en France. Ensuite, ma mère, parce que ma mère était tchèque, mon père était hollandais, et les écoles supérieures étaient fermées en ce moment-là. Les nazis ont fermé les écoles supérieures. Et ma mère a été envoyée en Allemagne. C'est là où elle a rencontré mon père. Elle est tombée enceinte. Me voilà. Et elle a terminé ses études de médecine à Paris.
Et vous, alors, votre enfance, vous l'avez passée où? En France, en Tchécoslovaquie, entre les deux, quelque part?
Entre les deux, c'était abominable. On m'envoyait par le train, on m'envoyait n'importe comment. Ma grand-mère maternelle et ma mère à Paris, Alors je faisais tout le temps la navette. On ne m'a pas laissé terminer une seule année scolaire dans un même pays. Vous vous rendez compte?
Est-ce que c'est un peu ce ballotage incessant entre des pays qui vous ont donné finalement aussi la bougeotte finalement
et oui, qui... oui, parce qu'en fait de compte, quand on éduque, on élève un enfant comme ça, on le forme d'une certaine façon. Et vous savez, j'avais 7 ou 8 ans, j'allais à Prague, à la police, là, demander, je veux partir voir ma mère. On m'a envoyé faire mes papiers toute seule, j'avais 8 ans. Je trouve que c'est incroyable. En fait, ça marchait d'une certaine façon, apparemment.
Étonnamment. Et alors, comment est-ce que vous avez pu voyager pendant la normalisation
Pendant la normalisation, je disais que mon père était hollandais et mon frère est citoyen néerlandais. Il était toujours citoyen néerlandais. Les Néerlandais n'ont pas voulu de moi. Pourquoi? Parce que c'était la guerre. C'est ce qu'on pense. Et les hommes, donc la population masculine, étaient plus ou moins décimés. Et puis, au moment où je suis née, mon père n'était pas encore divorcé de l'ancienne femme. Alors, il m'a reconnue, mais mon père et ma mère se sont mariés plus tard. Voilà.
Et maintenant, vos parents en tout cas...
Mes parents sont morts et mon frère, qui a vécu en Hollande. Alors, mon frère m'invitait des invitations truquées, en fait. J'invite ma sœur à faire ensemble un voyage au Togo. Il n'est jamais allé au Togo, naturellement. Que je finance entièrement, naturellement, bien entendu, rien du tout.
Donc, vous partiez après vous-même, vous prenez la route toute
voilà,
seule.
Oui, voilà. Alors, en ce moment-là, c'était comme ça. J'étais déjà vidée de la radio. Donc, j'avais une profession libérale, je travaillais comme interprète et j'allais au comité national, c'est là où on devait aller. Il y avait une vieille dame et je disais, je veux visiter mon frère, blablabla. Et sur le papier, en question, elle m'a donné un tampon en écrivant, nous sommes d'accord ou pas d'objection. Comme ça, je pouvais naturellement, sans avoir le droit de changer de l'argent, à l'époque, on changeait l'équivalent, je ne sais pas, de 15 euros ou quelque chose comme ça. Mais on n'avait pas le droit de changer davantage. Donc, j'allais avec 15 euros en poche. L'argent, je me le procurais. On achetait au noir l'argent ici. Mais c'était toute une histoire pour exporter l'argent. Mais c'était très amusant parce que j'étais interprète. Et par exemple, je me souviens d'avoir travaillé avec Gilbert Bécaud. Et avec Hugo Frey aussi.
Donc, des grands chanteurs français.
Oui, oui, voilà. Et il y avait des musiciens, donc toujours dans le groupe. Et comme ça, on bavardait. Et je me souviens d'avoir demandé à un musicien, je pense que c'était Gilbert Bécaud, Hugo Frey, je ne me souviens plus. Enfin, c'était un gars, j'ai dit, est-ce que tu serais gentil de transporter cet argent pour moi à Paris? Et je vais te téléphoner quand j'arrive à Paris. Voilà, il a dit oui, sans problème. Et quand j'ai appelé son numéro parisien, on m'a répondu, ce numéro n'existe pas. Alors j'ai rappelé, et le numéro existait, le gars était là, il était extrêmement gentil. Mais on voyageait avec trois fois rien, on voyageait en autostop.
Et du coup, vous alliez comment en Afrique? À partir de la France, hein, c'est ça, après?
À partir de la France, à partir de l'Espagne, en autostop.
Et vous partiez, vous partiez combien de temps, par exemple?
3 mois.
3 mois?
Oui, on arrivait au Maroc, on traversait Melilla, Malaga Melilla, on traversait par là et on continuait en Afrique du Nord. Disons que c'était vraiment pas confortable, parce que naturellement, pas question de dormir à l'hôtel ou de manger au restaurant.
C'était impossible. À la dure. Hein.
C'était vraiment à la dure. On avait à l'époque 10 dinars algériens par jour, donc on pouvait s'acheter du pain et soit une boîte de sardines, soit du lait condensé.
Oui, c'était très frugal comme repas.
Voilà, mais les gens étaient extrêmement hospitaliers à l'époque. Et c'était très intéressant de voyager alors, parce que juste l'époque de Bourguiba, après l'indépendance. Donc moi, j'ai vu l'Algérie juste après l'indépendance. J'ai vu comment ça s'améliorait et comment ça se détériorait. Je suivais le mouvement et j'ai beaucoup appris. Et comme ça, nous sommes allés jusqu'en Afrique occidentale, jusqu'au Togo, etc. On a voyagé comme ça. Naturellement, en Afrique occidentale, pas en autostop, il fallait payer les taxis de brousse.
Et du coup, alors vous qui connaissez justement l'Afrique depuis ces années-là et qui avez vu justement cette évolution, comment est-ce que vous percevez justement cette évolution depuis ces années-là, ce qu'est devenu l'Afrique aujourd'hui?
L'Afrique était belle alors. Alors que maintenant, avec la globalisation, c'est le désastre. Parce qu'il y avait des métiers et les gens, souvent, on visitait des marchés où il n'y avait même pas d'argent. L'argent n'existait pas. C'était l'échange, le troc.
Le troc, oui.
Oui. Et maintenant, aujourd'hui, avec toutes les marchandises, surtout qui viennent de l'Asie, qui sont de mauvaise qualité, avec les sacs en plastique. Alors, vous savez, ce sont des petits détails comme ça. Les sacs en plastique, on les jette. Ça bouche
les canalisations.
Le paludisme revient. Les gens, les métiers, ça n'existe plus parce qu'on achète tout ça. Les personnes qui vivaient de leur métier n'ont plus de travail. Alors les gens font n'importe quoi, un petit peu n'importe quoi. Et ils n'ont pas vraiment de perspective. Si, c'est très grave en Afrique.
Vous avez énormément voyagé en Afrique, mais également vous connaissez le Proche-Orient, vous connaissez l'Inde.
Oui, oui.
Et alors vous avez été justement mariée avec...
avec un Irakien.
Avec un Irakien.
Qui plus tard était ministre de la Culture.
Voilà, qui était
après
journaliste
la chute de Saddam, qui est journaliste. On s'est rencontrés à la radio.
Et à l'époque, finalement, se marier avec un Irakien, avec un étranger, c'était pas mal perçu, je ne sais pas, sous, justement à l'époque, sous le communisme.
Eh bien, naturellement, il y avait toujours du racisme, mais c'était un autre type de racisme, parce qu'un étranger en République socialiste tchécoslovaque était perçu comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, pas du tout le contraire. Mmh. C'était quelqu'un qui venait, qui avait des devises, qui pouvait s'offrir tout ça, etc., le luxe. On les enviait naturellement, pas les Cubains ni les Vietnamiens, mais les Africains, les Arabes, tout c'était des nababs. Mais moi j'étais, enfin ici je ne faisais pas vraiment partie, mais les jeunes de mon âge me regardaient à travers un snobisme. Moi-même j'étais différente. J'étais
déjà
très
par
différente.
Votre, par,
oui,
par
j'étais
vos
très
parents.
Différente. En fait, ce n'est pas par hasard que j'ai rencontré Mofit, parce qu'il était étranger, moi, d'une certaine façon aussi.
Grâce à toute cette expérience, finalement, de voyage, de rencontre, aujourd'hui, on fait toujours appel à vous, à la radio, à la télé, dès qu'il se passe quelque chose au Proche-Orient.
On fait appel à moi, oui.
C'est important pour vous de transmettre aussi vos connaissances.
Évidemment, c'est très important, surtout maintenant, pendant le printemps arabe, parce que l'islam, les arabes sont très mal vus, et les Français n'imaginent pas de quelle manière on informe ici, en République tchèque. C'est vraiment immonde. La manière dont on parle des musulmans.
Vous-même, justement, quand on vous demande ce que vous pensez du printemps arabe,
ben je
dis. Vous répondez quoi, justement?
Que les gens veulent la liberté. C'est quoi la liberté? Ben, la même chose pour tout le monde.
Finalement, on pourrait faire l'analogie, en plus, parce que le nom est très semblable avec finalement la révolution de velours.
Évidemment,
ils veulent la même chose.
Évidemment, bien entendu. Naturellement, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe et difficile.
Ça demandera plus
là-bas.
De travail. Ouais.
Mais ça demandera un travail immense. C'est une autre société. C'est les influences, les intérêts, la situation géopolitique, tout ça. C'est très compliqué maintenant, ce qui se passe en Syrie. C'est très, très, très compliqué. Il n'y a pas que la Syrie qui est appliquée.
Vous êtes allé justement récemment dans un des pays de la région?
Oui, j'étais il y a un an, j'étais en Égypte.
Et vous avez senti quelque chose qui se passait?
J'ai senti. D'ailleurs, la situation s'était beaucoup dégradée en Égypte. Je n'étais pas venue, 10 ans, je n'étais pas venue en Égypte. Et là, j'ai senti vraiment que ça se dégradait, que c'était un régime répugnant. Et les gens en avaient marre. Et puis, ils avaient besoin de vivre. Et ils étaient dans la misère. Vraiment, ils étaient dans la misère, même la classe moyenne.
Qu'est-ce que vous apporte encore aujourd'hui vos voyages?
Ça m'amuse d'abord. Ça m'intéresse toujours, ça me fatigue aussi. Naturellement, il y a des choses, c'est un peu prétentieux, mais j'en ai tellement vu qu'il y a des choses qui ne m'intéressent plus tellement.
Alors, on va finir tout doucement. Je voulais encore vous demander, on le disait, et puis on s'en rend compte en parlant, évidemment, vous avez donc sillonné un peu la Terre, et finalement, vous avez choisi de vivre hors de Prague, dans le nord de la Bohème,
voilà,
dans une petite
campagne.
Maison de campagne. Est-ce que c'est justement parce que vous avez tant voyagé que vous avez besoin de ce recul de la ville et puis d'être au calme, au contact de la nature?
J'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup la nature. C'est magnifique de vivre à la campagne. Voilà, je peux me promener chaque jour avec mon chien. Personne ne m'embête, plus ou moins. Je peux travailler, j'ouvre la fenêtre, je suis au vert, c'est splendide.
Merci Pavla Jazeirova.
Merci de m'avoir invité.
Thank you.
Vous venez d'écouter la rediffusion de l'entretien de Pavla Jazairova, réalisé par Anna Kubishta. C'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague en français. Pierre Ménian vous remercie de l'avoir suivi et à demain.